France Bleu Loire Océan. Récits de Loire Atlantique et de Vendée, Nadia Lecor.
Cette année, l'établissement Eugène Livette, lycée professionnel de Nantes, fête les 100 ans de son installation en 1910. Et pour nous raconter l'histoire de cet établissement réputé, hein, c'est Michel Kérézéon qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Michel Kérézéon, diplômé des arts et métiers, un ancien de l'école nationale professionnelle, livettien, donc c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, c'est ça.
Oui, livettien. Alors, je suppose que vous êtes parmi les très nombreux élèves qui se sont succédés depuis l'arrivée d'Eugène Livette à Nantes.
Oui, j'ai pu environ dénombrer 15 000 anciens élèves qui peuvent se réclamer de l'école Livette, créée en 1864.
Oui, c'est une suite d'évolution.
Et jusqu'en 1898, date à laquelle est devenue une école nationale professionnelle.
Voilà, parce qu'à l'époque, l'État avait décidé de généraliser, autant que faire se peut, l'enseignement professionnel en France.
Surtout dans l'Ouest où il manquait une école.
L'ENP, l'École Nationale Professionnelle, s'installe en 1910 dans les locaux d'Eugène Livette finalement.
C'est ça, avant de devenir en 1985 lycée régional technologique.
Voilà.
Et d'aujourd'hui, on l'appelle plutôt un lycée général et technologique comme lycée Clémenceau.
Votre promotion à vous, c'est la promotion 43-47.
Oui, c'est une promotion particulière puisqu'elle est née en 1944, effectivement, et elle est née dans la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Elle a connu les conditions de vie de la guerre, de l'occupation et de la libération. Des conditions de vie qui l'ont marqué profondément dans son histoire, comme et qui s'inscrit d'ailleurs dans celle de l'école de l'ENP de 1898 à 1961.
Voilà, ce sont des années, c'était avant le grand modernisme d'aujourd'hui.
Voilà, hein. C'est ça. Alors, j'ai quelques repères pour garder souvenir de ça. 43, c'est la date où je passe le concours d'entrée à Quimper, puisque j'étais d'origine finistérienne.
D'accord.
Et j'avais 14 ans. Et puis, on devait rentrer en septembre. Malheureusement, il y a eu les bombardements de septembre à Nantes et l'école a été fermée. Et la direction a organisé le repliement de ces différentes années d'études, première à quatrième année, dans 808 ENP de France.
Alors vous,
la région française.
Vous êtes parti où, vous ?
Alors, j'ai atterri en 1944, le 13 janvier, notre demi-promotion de première année a débarqué et est arrivée à l'école Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône. Comme nous n'avons pu rentrer que seulement à la fin décembre dans nos familles, nous avons repris nos études, nous sommes entrés effectivement à Nantes, à l'école Livette, en janvier 1945. Et alors à continuer nos études de deuxième, troisième et quatrième année.
Mmh. Je vous propose tout de suite sur France Bleu Loire-Océan une chanson qui va vous rappeler vos jeunes études, très certainement. C'est Jacques Brel avec Rosa.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des promenades, de parcelles sous les arcades, cerclées de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour, qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serai pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, ou pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, à Rosie, cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quel est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa.
Rosa, 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 rosis, rosis.
Jacques Brel et Rosa.
Récits de Loire-Atlantique et de Vendée. France Bleu Loire-Océan.
Avec Michel Kérézéon, avec nous, un ancien de l'institution Eugène Livette, le lycée d'enseignement professionnel. Michel Kérézéon, vous me le disiez hors antenne, à Eugène Livette, on n'apprenait pas le latin dans le cadre de l'enseignement du lycée, mais bien à l'aumônerie, juste derrière. Mais l'enseignement, autrefois, effectivement, était très différent de celui d'aujourd'hui. C'était pas du tout rythmé pareil. Vous avez donc choisi un enseignement professionnel. À l'époque, c'était plus sûr.
C'était plus sûr, c'était une nécessité, enfin un intérêt d'avenir, quoi.
Voilà, c'était plus par sécurité.
Et l'enseignement technique reçu est celui du secondaire, c'est-à-dire qu'on combinait les matières, les disciplines classiques, c'est-à-dire orientées vers le scientifique et la culture générale, et la deuxième partie qui était l'orientation, la formation professionnelle par le dessin industriel et par l'atelier et la technologie. Alors, ce qui fait évoquer, entre autres, la première boîte de compas et puis les difficultés à apprendre à limer sur le métal à l'ajustage.
Vous ne portiez déjà plus l'uniforme.
À l'uniforme avait été institué dès les origines par Eugène Livette. C'est une habitude qui avait, enfin plutôt un uniforme qui a été porté jusqu'en 1940. Et à la rentrée 41, il n'était plus obligatoire puisqu'il n'y avait plus possibilité de se fournir en vêtements. Et donc, il a été repris, je crois, beaucoup plus tard, vers les années 50. Et puis, c'était depuis, il n'y a plus d'uniforme, bien sûr. Il y avait une section normale, normale en deux parties, d'ailleurs, voilà. A et B, et puis une section spéciale. La section normale avait pour objectif de former des dessinateurs, des techniciens, tandis que déjà il y avait une orientation pour un tiers de la promotion vers les classes spéciales qui préparaient essentiellement au concours des arts et métiers. C'était le prolongement des études supérieures.
Voilà, c'était la voie royale, comme on l'appelait.
Oui, c'est ça.
Alors l'enseignement était assez rigoureux à l'époque. Ça rigolait
très
pas dans les
c'était
cours.
C'était des conditions de vie grâce à des professeurs dévoués et compétents, mais qui assuraient, qui avaient une volonté de réussite pour leurs élèves, quoi. C'était donc une vocation.
Ah oui, alors vous avez passé le bac technique, forcément.
Ah, ça a été la grande réforme. C'est à ce moment-là, en 1946, que Monsieur Le Roland, qui était l'ancien deuxième directeur de l'IPO, qui se trouve de l'autre côté de l'école, a créé en mars 1946 le premier bac. La direction de l'école ne l'a appris qu'en avril. Et il a pu préparer cela rapidement pour le passer en juin 1946. Mmh. Donc, premier bac. Et donc, par prudence, d'ailleurs, en troisième année où je me trouvais, la direction dit, on prend les cinq premiers de la classe.
Voilà. Pour être sûr qu'ils vont être reçus.
L'année suivante, eh bien, le bac mathématiques et techniques a été donc organisé et nous avons passé donc les épreuves de mathématiques et techniques.
Voilà. Alors des épreuves qui duraient beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, hein, ça
ah,
c'est
ben
sûr.
C'est ça. Il faut dire que même par rapport au bac mathLM, puisque c'était l'équivalent,
oui.
C'était, nous avions en plus à l'écrit l'épreuve de dessin industriel de 5 heures. Nous avions en plus une épreuve d'atelier, pour moi c'était de l'ajustage, pendant
oui.
8 heures, et une épreuve de technologie.
Oh, effectivement.
Ce qui a fait dire à M. Le Roland, plus tard, que c'était sûrement, c'était avant que le bac n'ait lieu, en mars 47, que ce devrait être un bac plus dur que
en
le
effet,
classique.
En effet, ça devait être un bac drôlement difficile. Et puis surtout, les conditions pour le passer avaient l'air un peu drastiques, draconiennes. Mais les conditions de vie, c'est vrai, dans les années 40-50, en France en général, sont pas encore formidables. On va voir avec vous, Michel Kérézéon, qu'au lycée Livette, il a fallu même élever la voix côté élève pour avoir un peu d'amélioration. Restez avec nous, je vous propose une chanson qui dit que chacun a besoin d'apprendre, les corgis. Everybody's got to learn sometimes.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
Loire-Océan, dans le cadre des récits Loire-Atlantique et de Vendée, c'était les Corgis. Everybody's got to learn sometimes.
France Bleu Loire-Océan. Récits de Loire-Atlantique et de Vendée, Nadia Lecor.
Avec Michel Kérézéron, un ancien élève du lycée technique Eugène Livette, parmi les tout premiers bacheliers, Michel Kérézéron.
Oui, les 11 premiers.
Voilà, les 11 premiers en France dans l'enseignement technique. Puis alors attention, un diplôme qui permettait d'aller jusqu'aux études supérieures, jusqu'aux arts et métiers, etc.
C'est vraiment,
c'était un diplôme de grande valeur.
Ouais, c'est de là que tout est parti, dans la réforme.
Cependant, les conditions de vie, à la fin des années 40, laissent sérieusement à désirer. Non, vous vous souvenez de conditions vraiment difficile. Hein.
Oui, alors ce qui fait que quand nous sommes arrivés en janvier 1945, les Chalonnais de Nantes ont ressenti une grande nostalgie par rapport à ce qu'ils avaient vécu. Et donc, ils l'ont exprimé dans des lettres qu'ils ont adressées, c'était des adolescents de 15-17 ans,
ouais,
qui l'ont adressé à leur ancien professeur qui était resté à Chalons.
D'accord.
Et donc, ces documents, on les a retrouvés récemment, en 2008, parce que le fils du professeur de 18 ans nous les a transmis et on les a relus avec une grande émotion.
Et vous pourriez nous en relire un extrait, là ?
Oui, et justement, elles sont éloquentes. Alors, je cite, « J'ai énormément de mal à m'adapter à ma nouvelle école. Chalon, c'est le paradis des internes. Dans les débuts, nous n'avions que tous les 6-7 jours, pas d'eau également au réfectoire, ou si peu. Nous sommes bien nourris, mais le pain manque. C'est l'époque où l'on utilisait les tickets de rationnement. Si le cadre scolaire, lui, est demeuré, il y a eu sans doute une évolution petit à petit, surtout quand il y a eu les conditions de vie économique meilleures. Quoi,
bien
de
sûr, toute façon. Ça s'est amélioré comme la vie en France en général.
Exactement. Hein.
Que sont devenus les élèves ?
Eh bien, il y a eu une grande diversité. Nous étions orientés vers l'industrie directement et notre promotion a vécu la période de croissance économique des Trente Glorieuses avec la nouveauté des métiers et des professions.
Mais il y en a qui n'ont pas suivi du tout les métiers de l'industrie ou les métiers manuels. Il y en a qui sont devenus journalistes, par
exemple.
Exactement,
parce qu'il y a eu outre les élèves de ma promotion, par exemple, qui sont entrés dans l'administration, les PTT. Il y en a qui sont devenus directeur général de Loire-Atlantique. Il y en a qui sont tournés l'enseignement, qui est devenu professeur universitaire, président de l'Université de Bretagne occidentale.
Il y en a même un qui est devenu prêtre.
Oui, alors on peut remonter dans les anciens de l'institution, un sculpteur de la fin du 19e, mais il y a des plus récents qui sont devenus des fondeurs d'art, si vous voulez, ou des artistes comédiens.
Et puis il y a eu des héros de guerre aussi.
Des héros de guerre, ceux qui sont inscrits, dont les noms sont inscrits, aux tables mémoriales, et tout particulièrement leur mémoire sera évoquée cette année, le 11 novembre.
L'école d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec la vôtre. Hein.
Non, on a perdu un peu par l'aspect des conditions de vie, d'ailleurs. Les jeunes n'ont
déjà
plus les mêmes vies en commun, donc ça a été transformé, bien sûr.
L'enseignement lui-même a beaucoup évolué.
Il a évolué. Et de toute façon, nous n'avons pas une certaine nostalgie vis-à-vis de ce passé, mais la fidélité demeure
parce que
la mémoire de nos camarades d'études, la reconnaissance envers l'école est restée très forte.
D'ailleurs, quand les anciens élèves se réunissent, c'est toujours une très très grosse fête, il y a un monde fou. Hein.
Ah ben, nous avons eu à deux occasions particulières montré notre attachement à cet enseignement et à notre école. Et à l'occasion de deux cérémonies, enfin, en 1980 encore, notre demi-promotion est revenue 50 ans après notre entrée à Chalon-sur-Saône, en
94.
Et toute la promotion a été à l'initiative de notre major en estime. Elle s'est réunie à Nantes pour fêter les 50 ans de sortie plutôt de l'école. C'était 50 ans de sortie, donc on était les deux tiers des partisans, ce qui est remarquable.
Tout à fait.
Qui montrait bien l'attachement.
L'attachement que portent les anciens
à leur lycée. Et d'ailleurs, à cette occasion, nous avons eu le banquet traditionnel.
Alors, je vous propose tout de suite, à ce moment d'histoire, et puisque nous arrivons à aujourd'hui au lycée Livette, je vous propose une chanson qui parle justement des métiers manuels, qui parle de construire, qui parle de bâtir. C'est Plâtre et ciment de Jean-Louis Aubert. plâtre et ciment. C'était Jean-Louis Aubert.
France Bleu Loire-Océan, récit de Loire-Atlantique et de Vendée.
Avec vous, Michel Kérézéon, l'histoire du lycée Eugène Livette à Nantes, institution plus que centenaire, qui fête d'ailleurs souvent hein, avec ses anciens élèves eh bien, le souvenir, la mémoire. Et puis, Eugène Livette a laissé des descendants qui vous ont aidé à retracer un peu l'histoire.
Oui, il y a eu, grâce au concours et à l'importante documentation, de la fille d'une de ses arrières petites filles. La généalogie d'Eugène Livette a pu être établie. Mmh. Et à partir de ça, ben, je me suis amusé à écrire une synthèse de l'histoire familiale que j'ai intitulée Les Saint-Sylvain, les Livettes de Saint-Sylvain d'Anjou, qui était le berceau de la famille.
D'accord.
Et cette modeste étude est un peu complémentaire de l'autobiographie d'Eugène Livette et du livre de notre professeur d'histoire, Georges Creveuil.
Les traditions sont nées de la vie en communauté et quand vous vous retrouvez entre anciens élèves, eh bien, vous n'hésitez pas à les faire revivre.
Oui, les traditions sont beaucoup plus endurées, surtout pendant la vie de l'ENP, parce que les jeunes aujourd'hui n'ont plus du tout les mêmes façons de
bien
voir
sûr.
Et de vivre comme ça.
Mais vous, vous aviez un hymne, par exemple.
Ah oui, il y a eu donc ce qu'on appelait le chant de la décale, parce que la décale a deux significations. C'est d'abord le départ de l'école pour aller en vacances, pour certains définitives.
On appelait ça la décale.
La décale. Et puis le deuxième, c'est le chant qu'on appelait décale, phonétiquement de D-K-L. Et c'est un hymne qui était commun à toutes les ENP. Seul changer la ville.
D'accord.
Et puis aussi aux écoles d'arts et métiers.
Alors ça donnait quoi ?
Chantons, chantons amis, la grande liberté. Le lien qui nous unit, c'est la fraternité.
Alors il y a aussi une histoire de clé d'Aix. De quoi s'agit-il ?
Alors ça c'est une grande histoire. On a retrouvé des clés de 1923 à 1965.
C'était des ouvrages d'élèves.
C'était des ouvrages d'élèves et vraisemblablement toutes les promotions ne l'ont pas réalisé. Alors qu'aux arts et métiers, c'est quelque chose qui a été créé en 1895, la première en 98, et qui perdure encore aujourd'hui.
Donc c'est incontournable.
Tandis qu'à Livette, c'était de certaines promotions l'ont réalisé. Alors, qu'est-ce que la clé d'Aix ? Ça peut demander qu'est-ce que c'est. D'abord, Aix, qu'est-ce que ça veut dire ? Aix, ça veut dire, c'est comme un terme du vocabulaire de l'école, c'est exance, sortie de l'école.
D'accord.
Et la clé a le symbole de la promotion, mais aussi le symbole de quelque chose, d'un événement, c'est-à-dire l'ouverture de la porte. La lourde porte de l'école pour le départ des élèves vers la vie active, et puis la fermeture de cette porte avec la clé.
Avec la même clé.
La clé.
Voilà.
Et donc la clé est donc réalisée. Le symbole. Qu'est-ce que c'est dans, en réalité ? Ben, c'est une œuvre généralement en bois, de la taille d'1,50 m, et qui est réalisée, là, pour notre promotion, elle a été réalisée par un élève modeleur de la classe de 4e normale.
D'accord.
Donc, elle existe toujours. Elle est donc dans la société du descendant de cet élève.
Parmi les citations, hein, parmi les grands de ce monde qui se sont souvenus hein, ou qui ont évoqué le lycée Livette, il y a Julien Gracq. Dans l'un de ses écrits, il en parle.
Oui, ce qui nous a amusé d'ailleurs, c'est en lisant son livre « La forme d'une ville », il évoquait ses souvenirs de lycée. Et je peux citer, peu après Saint-Clément, nous longions la façade de l'école professionnelle Livette, un collège technique à la mode du temps, que les lycéens tenaient universellement en grand mépris. Donc le grand lycée par rapport à l'ENP, c'était quelque chose...
Voilà, on comparait déjà Clémenceau puis le lycée technique.
Oui, parce que les origines sociales apparaissaient déjà,
bien
la
sûr,
différence.
Bien sûr.
Et alors, une phrase qu'on médite avec le sourire,
oui.
Parce que maintenant on connaît la notoriété de notre école, mm-hmm. telle que le lycée est connu, par rapport au, et telle que les... Et en se souvenant aussi que nous avions passé au lycée Clémenceau le bac, l'oral du bac pour les 11 premiers bacheliers de l'école. Mmh. Donc on a toujours ce souvenir en tête.
France Bleu Loire Océan. Récit de Loire Atlantique et de Vendée. Nadia Lecor.
Avec aujourd'hui Michel Kérézéon qui nous a raconté l'histoire de l'institution Eugène Livette à Nantes. Michel Kérézéon, je vous remercie infiniment d'être venu nous raconter cette belle histoire. Et puis je vais conseiller à celles et ceux qui nous écoutent, pour plus de détails, pour rêver un peu, pour voir des images également, le site internet livette-histoire.
Merci. Merci beaucoup.